Bonjour tout le monde. Bon mercredi matin. J'espère que vous allez bien dans le contexte actuel. Il faut qu'on s'encourage, bien sûr, malgré le fait que nous soyons à l'heure des choix difficiles. On l'a vu, on en a parlé, vous et moi, hier, et ça a été l'objet de beaucoup de suivi dans l'actualité, dans les autres émissions de mes collègues. On se rend compte là, que l'état de santé de nos hôpitaux laisse à désirer. En fait, le Québec, nous a dit le premier ministre et son responsable de la santé, Christian Dubé, lundi, Québec est prêt à appliquer son protocole de priorisation pour l'accès aux soins intensifs. Ça veut dire qu'il y a du triage qui va être fait. On est habitué au triage, c'est pas nouveau le triage, mais ce protocole de priorisation pour l'accès aux soins intensifs, ça vise quand même à dire qui va passer avant qui. Vous avez été très nombreux à réagir sur mes Facebook et sur, bien sûr, mon courriel ici au 98.5. Vous pouvez continuer de m'écrire d'ailleurs, isabelle@985fm.ca. Et de me téléphoner aussi ce matin au 514-790-9850. En particulier les gens de la grande région de Montréal, parce que là, on l'a vu, il y a des éclosions également dans deux hôpitaux de la région. On parle entre autres de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où l'urgence de l'hôpital fait état d'infection à COVID-19. Il y a celle de l'hôpital Santa Cabrini également dans l'est de Montréal qui est aux prises avec une éclosion de ce virus. Donc là, évidemment, ça rajoute beaucoup à toute l'inquiétude d'aller se faire soigner à l'hôpital. Puis c'est là-dessus que je voudrais vous entendre ce matin. Est-ce que vous vous êtes retenu, vous, jusqu'à maintenant, d'aller vous faire soigner à l'urgence? Puis des fois, c'est pas facile d'éviter l'urgence parce que c'est un peu là qu'on nous dit d'aller. Je sais pas vous, là, mais on a tous plus ou moins des problèmes pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille. C'est un problème évident là, d'en trouver un puis de trouver un médecin. Ceux qui ont un médecin de famille, c'est pas toujours évident de le voir pour un cas urgent parce qu'il y a en priorité les suivis de dossiers qui se font. Puis les rendez-vous, il y a tellement de monde, là. Et les rendez-vous sont remis souvent à 2-3 semaines. Quand tu as besoin de te faire voir par un médecin, là, puis que c'est pressant, là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, ben va à l'urgence. Puis quand vous appelez au 811, là, Info Santé Québec, souvent, c'est le conseil qu'on va vous donner parce qu'ils ne prennent pas de chance. Puis je comprends tout à fait, là, on ne veut pas échapper personne. On ne voudrait pas dire à quelqu'un qui mériterait d'être vu en urgence, attendez encore 24 heures, puis essayez de voir si votre état va empirer ou non. Donc, je pense que c'est un peu normal, d'une certaine façon, qu'on nous dise essayez d'être rapide là, pour dégainer sur votre état de santé, mais toujours est-il qu'il faudrait des ressources. Alors là, il y a la difficulté de se dire, OK, est-ce que je le fais, le choix d'aller à l'urgence, au risque peut-être d'être confronté à des éclosions de COVID? Est-ce que vous y avez pensé à ça? Moi, je vous avoue, j'ai eu une situation personnelle au cours du dernier mois, puis on a vraiment essayé de tout faire pour ne pas aller à l'urgence, puis on n'est pas allé à l'urgence. C'était comme tout sauf l'urgence, surtout quand on est immunosupprimé. Je voudrais vous entendre là-dessus, donc 514-790-9850. De l'extérieur de la Grande Région de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Il y aura la docteure Mylène Drouin, qui a 1h30 d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, là, va parler en conférence de presse pour nous tenir un peu au courant de la situation à Montréal. On sait qu'il y a du délestage aussi qui est fait en région. Les régions sont très mise à contribution et on va tout de suite se rendre à Sainte-Agathe-des-Monts, rejoindre le docteur Simon-Pierre Landry. Il est médecin de famille à Mont-Tremblant. Il est médecin justement à l'urgence de l'hôpital Laurentien de Sainte-Agathe. Bonjour, docteur Landry.
Bon matin, Isabelle.
Je vais vous entendre là-dessus, là, sur le difficile choix qu'il faut faire parfois quand on n'est pas capable de se faire soigner par son médecin de famille, quand on ne sait plus vers qui se tourner, mais qu'on ne va pas bien au Québec aujourd'hui. Est-ce qu'aller à l'urgence, c'est risqué à la lumière là, de ces éclosions dans deux hôpitaux de Montréal?
Oui, on est obligé de faire de la gestion du risque. Qu'est-ce que ça veut dire, la gestion du risque? Je vais vous donner deux exemples un peu grossiers, mais ça permet de mettre en contexte, finalement. Si vous avez une douleur thoracique, vous devez aller à l'urgence. On a malheureusement des patients qui ont fait des infarctus à la maison parce qu'ils ont peur d'aller à l'urgence. Donc, il faut, quand on a des symptômes comme une douleur thoracique, aller à l'urgence pour voir si on ne fait pas un infarctus. Par contre, il y a d'autres raisons de consultation. Mes pilules ne sont pas renouvelées. J'ai besoin de faire un test pour savoir si j'ai un cholestérol élevé. Ça, c'est des choses qui, évidemment, doivent attendre. C'est des choses qui devraient être, de toute fin pratique, traitées à l'extérieur de l'urgence. Donc, on fait des efforts. Les patients font des efforts pour effectivement se trouver d'autres alternatives. Maintenant, ce qu'on observe, pareil partout internationalement. J'ai fait des médecins californiens. Il y a une diminution des visites aux urgences. Donc, les gens ont moins tendance à consulter. Et nous, ce qu'on redoute, évidemment, bien, c'est un peu le backlash, c'est de voir des patients qui décompensent à la maison au lieu d'avoir consulté.
Vous en avez vu vous-même, Dr Landry, dans votre urgence, des gens dans cette situation-là?
Oui, des gens qui se sont qui ont malheureusement trop attendu pour un infarctus. Donc, un infarctus, si c'est bien traité rapidement, on peut souvent sauver le cœur. Des fois, quand c'est pris en charge plus tardivement, bien, ça veut dire des soins intensifs, ça veut dire qu'une portion du cœur va être mort parce qu'il va avoir manqué d'oxygène. On parle d'insuffisance cardiaque à ce moment-là. C'est des choses qu'on a vues malheureusement. Les mêmes choses pour les AVC. T'sais, quelqu'un qui, tout d'un coup, le bras ne fonctionne plus, si vous présentez rapidement à l'urgence, en bas de 4h30, on est capable de donner des médicaments pour essayer de renverser tout ça. Si vous arrivez trop tardivement, malheureusement, on est limité dans nos actions qu'on peut faire. Donc, c'est de bien compartimenter finalement les raisons pourquoi on consulte aux urgences. C'est difficile, je ne dis pas que c'est facile. Okay? Même les médecins, faire du triage, ce n'est pas quelque chose de facile. Fait que on ne s'attend pas à ce que les patients soient capables à la maison de toujours porter la meilleure décision. Mais il faut essayer d'éduquer la population à prendre la meilleure décision possible dans les circonstances.
Mais en même temps, on n'est pas médecin. Puis quand on est directement touché, hein, Dr Landry, c'est encore moins facile. Il faut avoir des gens autour de soi pour nous dire, garde, il faut vraiment que tu y ailles. En même temps, même les proches, là, on est tous inquiets quand on voit qu'on a un proche qui est malade, qui ne va pas bien. On a de la misère à rejoindre notre médecin de famille. Et quand on consulte autour, par exemple, qu'on fait le 811, on nous dit aller à l'urgence. Ouais. C'est un choix difficile là, aussi de le faire parce qu'il y a ce risque là, qui est bien réel de contracter. Déjà qu'en temps normal, hors COVID, on nous le dit au fil des ans, au Québec, on a un vrai problème de maladies nosocomiales, ces fameuses maladies d'hôpital. On sait qu'il y a un risque sur 9 d'en attraper une, là, un genre de d'infection importante qui peut même... causer la mort, hein, que ça soit de... On en a vu, ce genre-là. Bon, de bactéries mangeuses de chair, entre autres, je pense à celle-là, là, parce qu'il y a eu des cas très médiatisés. Mais donc, les gens ont comme nourri déjà, avant même le COVID, là, les gens avaient une inquiétude d'aller contracter une maladie qu'ils n'avaient pas avant de rentrer à l'hôpital. Là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne veut pas l'attraper, la COVID-19. Et là, on se met à douter un peu de la salubrité des hôpitaux, où ça va vite, où ça déborde, où on nous dit qu'on n'a pas trop le temps de s'occuper de tout le monde. Comment bien conseiller les patients là-dessus, Dr Landry?
Bien, je pense que les patients, c'est bon qu'ils sachent que ça existe, des maladies nosocomiales. Je veux dire, avant la COVID, on parlait de « c'est difficile ». Hein, ouais. Vous avez probablement couvert ces dossiers-là où est-ce qu'on avait des éclosions dans des hôpitaux, où est-ce qu'il fallait qu'on ça le branle-bas de combat, on mettait des jaquettes, on mettait des gants, on désinfectait pour essayer de contrôler des infections nosocomiales assez difficiles. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on peut pas faire abstraction qu'elles existent. Si vous regardez les manchettes, l'hôpital de Saint-Jérôme a été frappé, l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont a été frappé. Pourquoi? Parce que c'est des hôpitaux vétustes, c'est des hôpitaux qui ont besoin d'être rénovés, ça fait des années, puis ça n'a pas été fait. Donc, ceci étant dit, c'est une réalité, puis se mettre la tête dans le sable de dire qu'on ne peut pas attraper de maladie à l'hôpital, c'est pas une bonne idée. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même des professionnels qui gèrent des hôpitaux. Moi, quand je suis à l'urgence, que je vais vous rencontrer, je vais porter une jaquette, je vais porter des gants, je vais porter une visière, je vais porter un masque. Donc, on minimise énormément le risque de contracter, moi de le contracter ou de moi de le donner si je suis un asymptomatique puis que mon test de COVID est à venir, là, comprenez-vous? Donc, mm-hmm. Comme n'importe quel autre professionnel de la santé. Ce que j'essaie de dire, c'est que oui, il y a un risque. Oui, les autorités ont demandé aux gens d'éviter, si c'était possible, Maisonneuve-Rosemont et Sainte-Cabrini, parce que c'est des hôpitaux qui ont des éclosions, même à l'urgence. Ceci dit, les urgences sont demeurées ouvertes. Donc, si vous avez vraiment un problème de santé urgent, vous allez être traité. Donc, il y a un risque, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour éviter les éclosions, puis que quand il y en a une, on la circonscrit du mieux qu'on peut. Mais effectivement, ça arrive, surtout dans des hôpitaux qui sont vétustes, qui n'ont pas... Tu sais, regardez le CHUM, là, il est flambant neuf, le CHUM. Là. Ils ont des chambres speak and span avec... ils ont très peu de chambres multiples, s'ils en ont une, je pense qu'ils n'en ont même pas. C'est sûr que comparer ça à Maisonneuve-Rosemont, où est-ce qu'on a beaucoup de monde qui se prennent à la même réalité. Mais ils font ce qu'ils peuvent à Maisonneuve-Rosemont, puis ils gèrent du mieux qu'ils peuvent.
Oui, c'est ça. Vous avez parlé des asymptomatiques. C'est beaucoup ça. Je pense que les gens, puis ceux qui nous écoutent, vont pouvoir en témoigner. Les gens craignent ça. C'est que tu vas à l'urgence, tu attends des heures. Hein. Ça n'a pas changé. Ça a pas, probablement empiré. Tu sais pas si la personne à côté de qui t'es assis est asymptomatique ou pas. Puis on a beau... Il y a le 2 mètres. Je pense pas qu'il y ait 2 mètres entre chacun vraiment des patients à l'urgence. La dernière fois que je suis allée dans une clinique, là, un petit peu avant les fêtes, je peux vous dire qu'on avait beau mettre des chaises entre chacun des patients, on avait beau... Il y a quand même... La distanciation est difficile, là, Dr. Landry. Il y a quand même ça.
Vous avez raison, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Je prends mon urgence, je prends d'autres urgences aussi. Là, c'est les mêmes principes. On a fait des mécanismes, justement, pour que les gens ne soient pas trop cordés. On a essayé d'éviter le plus possible les corridors des urgences, qui est un fléau depuis des années. Des patients, tu sais, quand on monte à 200%, ça veut dire que la moitié de ton urgence est dans un corridor. Là. Okay? C'est ça que ça veut dire là, en janvier, quand on donne des entrevues dans les dernières années, c'est ça que ça voulait dire. Ceci dit, il y a quand même un peu moins de monde qui se présente dans les urgences. On est quand même débordé. Là, je veux dire, ils sont à 150% à Montréal. On est à 120, 130 dans les Laurentides. Montérégie, c'est la même galère. Il y a quand même un petit peu de monde, moins de monde. Et ça, ce que ça permet, c'est d'avoir un petit peu plus d'espace entre les patients. C'est pas parfait. On a eu besoin du délestage pour faire ça. Hein. Ça s'est pas fait à coup nul. Là. Ça a un coût de devoir maintenir les urgences à 130% pour pas qu'ils débordent à 300%. Ça a un coût sur le délestage. Donc, on annule des chirurgies, on annule des tests pour pouvoir monter les patients puis justement que ça monte pas trop en bas. Mais bon, il y a quand même eu des mesures qui ont été prises qui permettent finalement d'augmenter la distanciation physique entre les patients. C'est des bonnes mesures quand même.
C'est intéressant ce que vous venez de dire sur le lien entre le délestage, parce qu'on a beaucoup parlé des soins intensifs. Là, le délestage, on a compris que c'était pour permettre d'avoir des lits aux soins intensifs, mais vous dites que ça se répercute aussi, tout ce protocole-là, ça se répercute sur l'urgence.
C'est majeur. Je ne diminue pas la mortalité des gens qui ont souffert de la COVID, là, OK? Mais il y a énormément de gens qui souffrent du délestage. C'est le coût le principal, selon moi, dans tous les systèmes de santé, c'est parce qu'on n'a pas le choix de commencer à traiter les gens de la COVID. Mais pour faire ça, il faut qu'on prenne des ressources ailleurs. Donc, c'est des chirurgies qui n'ont pas lieu. Moi, comme médecin de famille, j'ai des patients qui attendent une chirurgie orthopédique pour retourner travailler. Pas de chirurgie, peut pas aller travailler. Comprenez-vous, ça a des impacts majeurs. Il y a du dépistage de cancer qui n'est pas fait à cause du délestage. Et quand Dr. O'Patterney, de façon solennelle, a dit à la télévision, on est rendu en délestage massif, c'était une bonne chose qu'elle le fasse, puis j'étais content qu'elle le fasse à la télé pour que les gens réalisent que ça a des impacts. Donc, le délestage a des impacts majeurs sur la santé de la population. Et c'est pour ça qu'il faut garder le nombre de cas COVID le plus bas possible pour qu'on arrive quand même à en faire un peu de chirurgie, puis surtout les chirurgies qui sont urgentes.
Donc, ce que vous venez de me dire, Dr. Landry, vous estimez que le coût du délestage va être plus important que la COVID?
Je me suis mal exprimé, puis j'aimerais ça rephraser. C'est-à-dire que le coût du délestage est extrêmement important. Il va être mesuré à moyen et long terme. OK, donc on va voir dans les prochaines années des complications parce que des patients n'ont pas eu accès aux soins. Et ça va prendre des années avant qu'on entame les listes d'attente qui ont augmenté parce qu'il va falloir mettre les bouchées doubles après ça pour opérer tous les gens qui sont sur la liste d'attente. On n'a pas le choix par contre et les gouvernements n'ont aucun choix de faire ce délestage-là. On est obligé de le faire parce qu'on ne peut pas laisser les gens à l'extérieur de l'hôpital qui ont de la COVID et qui ont besoin d'oxygène. Donc, on est pris face à une situation où est-ce qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est d'admettre les patients qui ont besoin d'oxygène puis de délester pour leur faire de la place. Mais ça va venir avec un coût supplémentaire sur les listes d'attente et ces impacts-là, on va les ressentir encore pendant des mois et des années.
Et donc, ça se peut que... Oui, je vous comprends tout à fait. Je pense que les auditeurs aussi trouvent ça très clair ce que vous nous dites, Dr. Landry. C'est tout à fait possible que le coût du délestage devienne plus important que le coût de cette pandémie.
Il y a un risque théorique, effectivement, de surmortalité. Donc, quand les journalistes questionnent le Dr. Arruda sur la surmortalité, ce qu'ils veulent faire, ils veulent dire combien de gens de plus sont décédés si on compare année par année, Et combien de ces gens-là ont été sont décédés finalement des suites de la COVID? Et la différence finalement dans le total, ça nous permet d'évaluer finalement combien de gens sont morts de d'autres causes que la COVID, mais des suites des conséquences organisationnelles de la COVID. Donc, la COVID, oui, il y a des patients qui sont malades, on en traite, j'en traite, on a des éclosions à gérer aussi, puis c'est dramatique, puis c'est sûr, mais il faut avoir en arrière de la tête que non seulement on fait ça pour soigner des gens de la COVID, mais que plus on a de gens à COVID à soigner, plus ça a des impacts sur les autres patients qui n'ont pas la COVID, mais qui ont besoin de soins. Et dans les prochains mois, années, il y a des gens qui vont regarder les statistiques puis qui vont mesurer cette surmortalité-là. Et puis, c'est seulement dans quelques mois, quelques années, peut-être même, que la santé publique va pouvoir dire, écoutez, ça a été ça le coût en vie humaine de la COVID. Pas juste de la COVID, mais des impacts de la COVID sur le système de santé.
Profondément triste tout ça. Merci, docteur Simon-Pierre Landry. Vous restez avec nous, bien sûr. Au retour, beaucoup de gens veulent intervenir. On va entre autres parler à Hélène, qui est enceinte. J'imagine qu'elle est très inquiète. On vous parle tout de suite après. Vous pouvez nous joindre au 514-790-9850. De l'extérieur, n'hésitez pas à nous contacter. 1-866-790-9850. Ma question est très simple ce matin. Je vous demande si vous craignez d'aller vous faire soigner à l'hôpital. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous dites, bon, moi pas y aller de suite. Je vais attendre un petit peu, là. Je veux pas aller me rempirer, comme on dit. À tout de suite, tout le monde. Je me remets tranquillement de ce que vient de nous dire le docteur Simon-Pierre Landry, qui est médecin de famille à Mont-Tremblant. Il est médecin à l'urgence de l'hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts. Ce matin, on parle, entre autres, des éclosions dans deux urgences de Montréal. Il y en a sans doute ailleurs au Québec. Deux urgences, entre autres, celle de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où il y a effectivement beaucoup de monde qui passe par cet hôpital. C'est une urgence très occupée. Celle également de l'hôpital Santa Cabrini. Donc, la direction du CIUS a décidé de dire aux gens, évitez ces urgences. Allez pas vous jeter dans la gueule du loup. Évitons ces urgences. C'est sûr que ces éclosions, ça pose des problèmes parce que ça a une répercussion dans tous les autres services de ces hôpitaux. Docteur Landry, dites-moi, dans votre urgence à vous, à Sainte-Agathe-des-Monts, en avez-vous eu des éclosions de COVID?
On a eu des cas. Malheureusement, il y a certains membres du personnel qui sont aussi tombés malades. Par contre, on n'a pas eu d'éclosion du type Maisonneuve-Rosemont. Là. Ça s'est pas passé. On a eu des petites éclosions aux étages, donc où est-ce que les patients sont hospitalisés. Ça a été maîtrisé très rapidement. Je vous dirais, ça a été très, très minimisé comme impact. Et c'est la raison. On a été chanceux. Je pense qu'on a aussi bien travaillé. Mais c'est la raison pourquoi des hôpitaux plus vétustes, je vais prendre Saint-Jérôme, ont commencé à transférer des patients vers chez nous parce qu'eux avaient plus d'éclosions et donc on transférait des patients vers chez nous.
Oui, puis je pense que ce fameux délestage, c'est ça qu'on fait. On va beaucoup demander la collaboration de tous les hôpitaux régionaux parce que, ne serait-ce qu'à Montréal, on n'est plus capable de gérer le trop-plein. Là, c'est un peu ce qu'on comprend. Vous disiez tout à l'heure qu'il risque d'y avoir, et on le saura malheureusement après coup, mais il risque d'avoir une grande surmortalité et peut-être même plus de décès dus au délestage que de décès dus à la COVID. Quand je vous ai entendu dire ça, puis je pense que vous avez tout à fait raison là, d'avoir ça, d'émettre ça comme hypothèse, c'est tout à fait possible. Il y a des cardiologues qui le disent aussi en ce moment au niveau des chirurgies cardiaques. C'est un vrai, vrai, vrai problème. Tout ce délestage de gens, les gens qui... Il y a même, j'écoutais des médecins hier qui disaient qu'il y avait des gens qui sont morts, encore ce matin, l'émission de mon collègue Paul Arcand, des gens disent... Il y a des patients qui vont mourir de cancer parce qu'ils n'auront pas pu être traités. Là, il se passe quelque chose qui dépasse l'entendement, docteur Landry. On était effectivement très inquiets. Là. On a raison de l'être.
Oui, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire que le patient qui a besoin d'oxygène en ce moment puis besoin de soins intensifs, on a besoin de le traiter maintenant. Et donc, c'est ça qui est la tragédie, finalement, du délestage. C'est qu'on n'a pas le choix de faire avec ça. La seule chose qu'on peut faire, finalement, c'est de suivre les consignes pour avoir le moins de cas de COVID possible pour qu'on fasse le moins de délestage possible. Mais on est rendu à un point où est-ce qu'effectivement, comme disait Dr. O'Patterney, on est en train de délester des greffes rénales. C'est gros, là. On ne parle pas d'un ongle incarné, là. C'est quelque chose de majeur.
On a Hélène qui est avec nous, qui est enceinte, qui est très inquiète. Bonjour, Hélène.
Bonjour, ça va bien?
Ça va, et vous?
Ça va, ça va. Alors oui, en fait, c'est ça, je voulais réagir parce que y a deux choses. En fait, premièrement, oui, je suis enceinte, puis je suis due dans un mois, mais j'ai j'ai le plaisir d'avoir fait le choix d'avoir un suivi de grossesse avec une sage-femme. Donc, ça veut dire que j'ai la possibilité d'accoucher en maison de naissance, ce que je vais faire. Et je suis assez contente parce que oui, en effet, j'ai pas tant envie d'aller fréquenter les hôpitaux. Donc ça, c'est une chose. Puis bon, il y a toujours des risques là, de transfert à l'hôpital là, si les choses se passent pas bien. Mais si tout est beau, en fait, je suis assez contente là, de pouvoir éviter ça. Sur l'autre sujet, c'est que en fait, ma petite fille, elle a eu un accident une semaine. Elle s'est blessée en juin. Puis elle s'est toute lacérée là, à l'intérieur de la bouche. Puis normalement, notre réflexe a arrêté d'aller à l'urgence, mais on a décidé d'aller voir une clinique de dentistes qui était là pour pouvoir répondre à nos questions. Puis finalement, tu vois, la lacération était peut-être un peu plus grosse que ce qu'ils voient normalement, mais ils ont été capables de bien nous soigner, bien nous enligner, tout ça. Fait que je pense que c'est notre devoir d'essayer de regarder c'est quoi les autres options pour aider les hôpitaux puis les gens qui ont besoin des soins. Puis il y en a d'autres alternatives. Sinon, on aurait pu aller en clinique privée. Tu sais, oui, c'est des sous, mais en même temps,
Donc, vous faites tout ce que je comprends, c'est que vous êtes organisée pour éviter l'urgence, Hélène.
Absolument, ben oui.
Éviter l'hôpital, en fait, carrément.
Pour moi puis pour les autres, quand j'entends qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir leurs soins,
ouais.
Parce que plein de gens ont contracté le virus, ça me fait capoter. Puis il y a des gens autour de nous que je vois qui ne respectent pas les consignes, qui se sont vus pendant le temps des fêtes, puis je trouve ça égoïste de ne pas penser à plus grand puis à se dire, hey, l'impact, là, on le voit aujourd'hui, tu sais, fait que, faut continuer de respecter les consignes, faut pas se voir, faut faire attention de pas tomber malade parce qu'il y en a qui en ont besoin et eux, ils ont pas le choix. Tu sais. Fait que c'est un peu oui pour notre sécurité, mais c'est aussi pour la société puis pour voilà. Tout le monde, ceux qui en ont besoin. Tu sais.
Merci. Merci beaucoup, Hélène, de ce témoignage. Merci bien. Philippe, bonjour. Vous avez fait un AVC il n'y a pas très longtemps. Vous avez donc dû vous rendre à l'hôpital.
Oui, j'ai dû me rendre à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Oui.
Et puis quand je suis arrivé, ils ont un système de bracelet, là, ils vous posent des questions, et puis si t'as pas de symptômes, t'as pas été en contact avec personne qui a le virus, ils te mettent un bracelet vert au poignet. Si tu réponds oui à une des questions, ils te mettent un bracelet jaune. Il y a des zones jaunes, des zones vertes, la zone rouge, c'est ceux qui sont atteints du COVID. Et puis, étonnamment, je suis arrivé à l'urgence, et puis 20 minutes plus tard, j'étais déjà installé dans une chambre, mes prises de sang étaient faites et mon scan là, du cerveau était fait.
Donc, vous, ça a plutôt été rapide. Là. C'est un peu ce que nous disait tout à l'heure Dr Landry. Oui, pour les cas d'AVC, les cas de douleur thoracique à risque d'infarctus. Donc, on s'est bien occupé de vous.
On s'est très bien occupé de moi. Je veux dire, j'ai rien à dire contre le système. Ils font beaucoup d'efforts pour justement protéger les gens, se protéger eux-mêmes, protéger les gens aussi. On entend beaucoup de mauvaises choses, mais quand il y a un bon travail qui fait comme ça, ça vaut la peine de souligner.
Bien, tout à fait. Merci. Puis prompt rétablissement, Philippe. Docteur Simon-Pierre Landry, quelle est votre recommandation de médecin pour les gens qui nous écoutent et qui auraient peut-être besoin d'aller à l'urgence ou à l'hôpital?
Bien, j'adore les deux exemples qui viennent de parler parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, la première dame a expliqué qu'elle a essayé de trouver d'autres alternatives parce que, bon, c'était une lacération. C'était pas une infection qui avait besoin d'être vue là, de façon urgente, là, comme une infection dans une jambe ou quelque chose comme ça. Donc, elle a eu le bon réflexe. Elle a essayé de trouver d'autres alternatives qui étaient sécuritaires. On peut appeler le 811, justement. Je sais que souvent, ils vont référer à l'urgence, mais il y en a quand même une bonne partie qui vont être capables de réorienter. Donc, c'est un bon réflexe à avoir, le 811. Puis, la deuxième intervention, bien, écoutez, c'est comme je vous disais, là, douleur thoracique ou un membre qui bouge pas, qui pourrait être un AVC, ça se traite pas en clinique médicale. Là. Ça se traite dans une urgence. Fait que lui, il a eu le bon réflexe. Puis parce qu'il a eu le bon réflexe, le triage l'a tout de suite identifié. On l'a isolé en fonction de ses facteurs de risque pour la COVID, puis on l'a soigné. Donc, c'est deux bons exemples, finalement, pour montrer ce qu'il faut faire.
Je sais que je dois vous laisser aller, mais j'ai une dernière question qui vient d'arriver de la part d'un professionnel de la santé qui dit « Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme les Chinois? Pourquoi on ne sort pas les gens qui sont contaminés COVID de leur milieu de soins, qu'on les regroupe pour éviter une contamination dans le milieu hospitalier? » Je trouve que c'est une question pertinente.
Ben en fait, on fait quand même des zones. Monsieur, il a fait référence jaune, rouge, verte. Donc,
mais les sortir de l'hôpital, puis dire à l'hôpital, d'une certaine façon, va être protégé en partie, parce que bon, il y a toujours les asymptomatiques, là, mais...
quand on peut, on le fait déjà. Donc, on a des espèces de step-down units où est-ce qu'on envoie des patients justement faire une convalescence. Souvent, c'est à l'extérieur de l'hôpital. Donc, quand on est capable de le faire, on le fait parce qu'on ressent la pression finalement sur les lits d'hôpitaux qui peuvent offrir justement l'oxygène et tout ça. Et donc, dès qu'on peut le faire, je vous dirais que c'est déjà fait dans le système.
OK. Bon, ben merci beaucoup, Dr. Landry. Je vous laisse retourner auprès de vos patients. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de vos efforts. Puis merci aussi de prendre le temps de nous communiquer ce qui se passe puis de nous donner vos impressions sur la situation. C'est très précieux. Merci beaucoup.
De rien. Puis je pense que c'est important justement que la population soit au fait pour prendre les bonnes décisions.
Oui, tout à fait. Merci bien. On poursuit, nous, bien sûr, avec le sujet. On va avoir la médecin de famille Christiane Laberge, la Dr. Laberge, qui va nous parler tout de suite après la pause. Vos commentaires, bien sûr. Nos lignes sont pleines, mais on va vous donner la parole le plus possible. Vous pouvez nous joindre au 514-790-9850. Ça, c'est à Montréal et à l'extérieur de la région, un peu partout au Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous avez des inquiétudes d'aller vous faire soigner à l'hôpital, puis si vous vous êtes arrangé pour éviter d'y aller, quels sont les trucs que vous avez. À tout de suite, tout le monde. Avec moi, la doc Christiane Laberge, médecin de famille. Bonjour, Christiane. Je sais que tu as pris une certaine retraite, mais ça t'empêche pas de bien être au courant de la situation. Là, on vient de parler avec le docteur Landry qui nous confirmait qu'effectivement, il y avait du délestage et que ce délestage avait un impact sur les urgences des hôpitaux où là, on commence à avoir des sérieux cas de COVID, en tout cas assez important pour dire aux gens, venez pas à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, allez pas à l'urgence de Sainte-Cabrini, éviter les urgences. Là, si on commence à avoir des problèmes comme ça, d'éclosion à l'urgence, puis que ça se répercute même parce qu'il y a des éclosions dans les étages aussi, dans les autres unités de soins, c'est rien pour rassurer les gens. Beaucoup de gens sont inquiets, nous l'ont dit. Comment tu vois ça, Christiane?
J'ai contacté des jeunes qui sont encore en pratique, donc qui sont face au public. Tantôt, quand j'ai pris mon rendez-vous avec toi. Et effectivement, il faut savoir quelles sont les urgences communes que les médecins voient. Faut renouveler mes médicaments. Ça, vous pouvez vous arranger avec le pharmacien. Mm-hmm. Allumez vos lumières, puis regardez quand votre expiration de prescription survient. Mm-hmm. Ça coûte rien. Mm-hmm. Ça, c'est dans votre cours. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une urgence? Urgence, c'est un phénomène qui survient brusquement ou accidentellement ou un événement qui s'amplifie ou s'intensifie de façon importante et menaçant la vie. C'est ça une urgence. Donc, une urgence hospitalière, s'entend. Donc, comme monsieur disait, un AVC, ça arrive tard, ça s'intensifie tard et on s'en va à l'urgence tout de suite parce que si on dépasse 4 heures, notre rendement au niveau des effets secondaires et des séquelles augmente de façon épouvantable. Vous avez des signes d'angine. Vous avez un symptôme qui augmente à l'effort, qui arrête quand vous êtes arrêté. Vous faites le moindre effort, ça survient. 911, urgence, hôpital. Et quand vous vous en allez à l'hôpital, dans un contexte comme ça, comme disait monsieur, souvent à l'intérieur de la demi-heure, vous allez être sorti de là et vous allez être traité comme il se doit. Sauf que la femme de ménage ne vous approche pas. Ceux qui n'ont pas d'affaires là vous approchent pas. Vous avez l'infirmière qui est toute avec son, en guillemets, son gréement, ses équipements, ses EPI qu'on appelle. Donc, elle est toute équipée. Elle va vous piquer, ils vont vous envoyer en radiologie, vous allez voir, rentrer dans le tube, etc. Et tout ça se fait de façon très sécuritaire. Donc, attention. Oui, on peut aller à l'urgence pour des urgences. Sauf que, il y a des gens qui aussi, dans les cliniques, tu sais, on rit du fax, hein? On rit bien du fax. Mais ça fonctionne encore dans les cliniques. Donc, si moi, j'ai, par exemple, des symptômes qui n'étaient pas là, j'ai un mal de tête, OK, que j'ai jamais eu de ma vie, qui n'est pas très intense, mais qui est là. J'ai pris ma pression parce que j'ai un appareil à pression, puis je suis hypertendue. Puis je vois que ma pression est mal contrôlée. Je peux consulter mon pharmacien. Mon pharmacien peut parler à mon médecin. Dire, hey, la médication qu'elle prend, là, me donne-tu la permission, là, actuellement, à vie des affaires, là, puis me donne-tu la permission d'augmenter la médication? Oui, puis dans 15 jours, fais-y faire des prises de sang pour voir si ça a un impact sur son système, ses reins, ou peu importe. Ou si sa glycémie est belle, ou etc., etc. Donc, le pharmacien va travailler avec le médecin de famille à contrôler la situation qui déborde un peu, mais qui n'est pas une urgence nationale. Par exemple, je fais des infections urinaires 2 fois par année sur une base régulière. Mais quand je vois mon médecin pour autre chose, je dis, hey, en passant, voudrais-tu me renouveler ma médication pour mes infections urinaires que je fais deux fois par année? Ça veut dire que ça va être à la pharmacie et si j'en ai besoin, je n'ai pas besoin de courroyer un vendredi soir pour trouver un rendez-vous d'urgence parce que j'ai bien mal au ventre et j'ai une infection urinaire.
Et puis même aussi, je pense qu'il faut dire aux auditeurs, si vous avez eu dans l'année, puis je pense que ça peut même être dans les deux ans, Christiane, si tu me connais.
Dans l'année et que vous n'êtes pas ménopausée.
Ah, c'est possible, oui. Bon, ben, donc, le pharmacien peut dire, laissez-moi regarder dans votre dossier si vous en avez déjà une prescription, même si elle est échue, il peut, parce que désormais, les pharmaciens.
Et dans l'année.
Oui, OK, d'accord. Dans les 12 mois, donc, qui précèdent. Le pharmacien, ça fait partie des nouveaux, je pense qu'il y en a 7 ou 8 nouveaux actes qu'il peut. Et d'ailleurs, il va vous charger pour ça, là. Il va vous calculer le médicament, puis il va vous, selon la pharmacie, vous rajouter. J'ai eu l'occasion de le vivre, ça. Fait que c'est pour ça que je peux bien informer les gens là-dessus. On m'a chargé un petit 17 $ de plus, c'était l'acte du pharmacien.
Oui, la consultation.
Voilà, c'est ça. Mais sincèrement, c'est pratique. On en voudrait plus, tu sais.
Mais c'est parce que quand tu vas voir le docteur pour d'autres choses, mais t'en profites avec ton accès adapté. C'est ce qu'on appelle l'accès adapté. Il y a beaucoup de cliniques, les GMF, des groupes de médecine de famille, où on a cette approche-là, l'accès adapté. Par exemple, tu vas pour, je ne sais pas moi, une infection X ou pour surveiller ta pression ou tu sais ce qu'on appelait autrefois l'examen annuel, là, tu sais, et tu vas voir ton médecin. Puis en même temps, tu dis, écoute, cette année, j'ai fait de l'asthme quand j'ai fait un rhume, puis j'ai eu des allergies probables au mois de mai parce que ça a duré 3 semaines, puis après ça, ça s'est en allé. J'ai eu le nez congestionné, puis j'ai eu même de la misère à respirer. Ton médecin peut te donner des médicaments qu'on appelle en amont, parce qu'on peut se douter que l'année prochaine, là, au mois de mai, tu devrais faire pas mal la même affaire.
Ouais. Mais toujours, mais en même temps, il faut voir les médecins, il faut être capable de le voir. Faut que le médecin, tu sais, tu semblais dire, le médecin va appeler le pharmacien, ils vont jaser. Écoute, dans le temps...
Oui, mais c'est parce que là, je te parle de la visite. Là. Ouais. On parle d'une visite. Dans l'accès adapté, on profite de la visite que tu vas faire pour regarder l'ensemble et toi, tu vas voir à demander. Le médecin, il ne sait pas qu'au mois de mai, tu as eu des symptômes d'allergie. Tu peux lui dire, puis dire, moi, j'aimerais ça que l'année prochaine, là, plutôt que de vous déranger puis prendre du temps juste pour avoir un aérosol dans le nez puis avoir un aérosol pour les poumons, que je vous dérange, ben à ce moment-là. Par contre, si le médecin dit non, tu dis, parfait, si je vous dérange au mois de mai, ça va prendre combien de temps avoir un rendez-vous avec vous? Comment on peut s'arranger pour qu'on aille sur la voie rapide? Et quand je te parle de fax, si, par exemple, j'ai un problème de santé et que j'ai une barrière, j'ai vraiment une grosse, grosse barrière au secrétariat, mettons, et que ça passe pas, d'envoyer un fax avec l'histoire. J'ai, depuis le 14, tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. J'ai essayé de vous joindre ou de joindre les médecins de votre clinique. Votre secrétaire m'a donné un refus complet. Je vous avise que je devrais consulter ailleurs, ce qui diminuera mon taux d'assiduité et potentiellement la subvention gouvernementale au GMF. Et tu fais comprendre à la secrétaire que si elle fait ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients, là, ben, ils risquent de perdre un bout de subvention puis sa job. Toi!
Mais tu sais que tu peux envoyer cette lettre-là par courriel aussi, là. Ça marche aussi, les courriels.
Ben, les courriels, c'est parce qu'il faut que tu sois sûr que le médecin l'a reçu, l'a lu et a pris une décision.
Mais le fax aussi.
Alors que quand tu envoies une lettre ou un papier ou que tu le déposes dans les mains de la secrétaire, il est obligé de le voir, il est obligé de prendre une décision, puis il est obligé de te transmettre la décision. Alors ça, c'est un petit peu plus engageant. Évidemment, tu ne fais pas ça parce que tu as oublié tes pilules depuis 2 mois, puis là, tu dis, ah, c'est vrai, ma pression remonte, il faudrait bien que je renouvelle mes pilules. Non, là, tu vas te faire varloper solide.
Donc, ce que tu nous dis, là, pour récapituler, tu dis, un des trucs, là, c'est votre prochain rendez-vous chez votre médecin de famille.
Oui.
Tu dis aux auditeurs, bien, faites votre épicerie. Vous dites, moi, j'ai besoin de ça. Mais tu sais, si tu as une infection... Tu vas me dire souvent, elles sont virales, donc pas besoin d'antibiotiques. Exact. Mais mettons que tu as une surinfection à ton infection virale, là où tu pourrais peut-être avoir besoin d'antibiotiques, ça, on peut difficilement te dire...
Dans le cas de COVID, tu dois consulter.
C'est ça.
Parce qu'il faut probablement prendre la décision, est-ce que c'est COVID plus, COVID moins? Est-ce que tu vas passer le test? Est-ce que je dois te donner un suivi? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand je pose un diagnostic, tu sais, je pose un diagnostic sur une potentielle infection urinaire.
Mm-hmm.
Mais tu as une infection urinaire atypique. Ça évolue depuis 2 semaines, oui, non. Il y a des journées que tu es parfaite, il y a des journées que tu as des symptômes. C'est pas cochère, ça, là. C'est pas dans le livre, là. Fait que ça veut dire qu'il faut que je te fasse faire une analyse des cultures des urines. Il faut que je te traite, mais il faut que je te suive. Donc, c'est pour ça que c'est pas... actuellement, c'est drôle, parce que je lisais sur l'intelligence l'intelligence informatique artificielle. Et on nous disait, tu sais, que oh, j'ai même une directrice générale de CIUS qui m'a dit, oh, dans quelques années, on va rentrer les symptômes du patient dans l'ordinateur, puis le diagnostic va sortir, puis on va traiter ça, puis ça va être fini là. Ben non, ils l'ont essayé dans beaucoup d'endroits et ça marche pas de même.
Non.
Parce qu'il y a une valorisation des symptômes qui ne se fait pas. Juste de dire que ça évolue sur 2 semaines, c'est pas normal. Donc, il faut un suivi. Et c'est de là où le médecin devient important, ou ton infirmière praticienne. Puis l'autre chose, c'est de consulter idéalement toujours à la même clinique. Ton dossier est localisé, superposé, alors que si tu dis « m'aller au plus proche, m'aller au plus proche, m'aller au plus proche », puis que tu changes de clinique 12 fois, ben ça se cumule pas, parce que d'un GMS à l'autre, ils se parlent pas.
Ah non,
donc,
c'est ça.
Les notes cliniques ne sont pas regroupées.
Mais on va où on peut, tu sais, on va où on en trouve un, tu sais.
Ben,
au cours des dernières semaines,
tu te présentes au GMS, tu dis, moi, là, ça fait 4 fois que je consulte ce médecin-là, puis j'ai un problème aujourd'hui, puis je veux que ça se cumule. Fait que là, il va falloir qu'il te donne des objections pour ne pas te recevoir, et tu vas laisser ta lettre en disant, j'ai consulté ici, j'ai pas de médecin de famille, mais c'est ma clinique de quartier, voici les symptômes que j'ai, aujourd'hui, et j'aimerais vous rencontrer. Là, il y a un médecin qui va être obligé de prendre une décision. Alors, ça te donne un moyen. L'autre affaire, tu as Bonjour Santé. Bonjour Santé, c'est ton référé, par exemple. Tu dis, est-ce qu'il y a de la place à telle clinique? Moi, c'est ma clinique de proximité.
Là où ça coûte 20$, là, Bonjour Santé.
Ça va te coûter 20$, mais tu vas avoir un rendez-vous dans la clinique théoriquement où tu veux. Puis comme je te dis, avec l'accès adapté, ce que ça donne comme possibilité, c'est que ça libère des créneaux, justement parce que tu dis, écoute, j'ai mal à l'oreille, c'est effrayant, je fais de la fièvre, j'ai fait un rhume, je pense que j'ai une otite. Bien, tu peux pas voir ça en télémédecine, une otite.
Ouais.
Fait que des fois, tu peux faire ton questionnaire en télémédecine, puis tu dis, bien, venez, puis je vais vous voir l'oreille, on va vérifier si vous
écoute,
vraiment...
dans le temps des fêtes, là, Bonjour Santé ou Rendez-vous Santé Québec, là, l'espèce de version gratuite du gouvernement du Québec où il y a à peine 10 % d'ailleurs des cliniques qui sont inscrites, là, donc c'est sur le bord de pas d'être un peu un échec.
Mais
bon.
Mais
moi, j'ai rentré à 150 km de la maison, j'étais prête à aller, là. Il n'y avait rien. Zéro rendez-vous.
Simple. C'est qu'il y avait zéro rendez-vous parce qu'il y avait des cliniques de fermées.
Ah ouais.
Donc, c'est ça qui était le problème.
Fait que là, c'était aller à l'urgence. Fait qu'évidemment, non. Mais
c'est sûr.
Le temps passe tellement vite. C'est fascinant. C'est très intéressant ce que tu nous dis, Doc Laberge. On revient. Les lignes sont pleines. Je vais essayer de parler à une couple de personnes tout de suite après ceci. Donc, Amélie est au bout du fil. Elle veut tout faire pour éviter d'aller à l'hôpital. Hein. Vous ne voulez pas y aller du tout, Amélie. Vous êtes inquiète du risque, peut-être, de se présenter là.
Exactement. C'est inconfortable de penser de s'en aller à la clinique ou à l'urgence, surtout quand on pense qu'on a nos enfants qu'on pourrait contaminer, qu'on pense aux gens autour de nous. Là, moi, j'ai eu tous les symptômes de la COVID, donc je suis allée passer les tests. Mes tests étaient négatifs. On trouvait pas ce que j'avais, mais après 2 semaines, je me sentais toujours vraiment pas bien, fatiguée, mal de gorge intense. Finalement, j'avais une mononucléose, mais fallait que j'aille passer des prises de sang, sauf que personne voulait me voir. Il n'y avait pas de CLSC qui voulait me prendre pour des prises de sang. Et finalement, j'ai dû aller en clinique COVID, mais ça donne pas le goût d'aller à la clinique COVID parce que je le savais que j'avais pas la COVID selon les résultats des tests. Par contre, le test aurait pu être négatif, mais que je sois quand même positif.
Fait que vous, mais je comprends tout à fait ce que vous dites. Merci, Amélie. Merci bien. Gail, vous dites, c'est bien beau de nous dire aller en clinique privée, mais il faut toujours les trouver, ces cliniques-là, n'est-ce pas?
Oui, mais il me semble qu'il n'y a pas un médecin qui lève la main en disant « je vais me serrer la ceinture, moi aussi, puis si on est capable de se faire opérer pour une hanche dans les prochaines 2 semaines, non? C'est qu'il y en a de la disponibilité. Moi, ça me choque. Moi, ça fait 30 ans que je suis avocat. Avocate, puis si j'arrivais au procès pour quelqu'un qui n'est pas admissible à l'aide juridique qui décide d'arrêter de me payer au procès, mais c'est bien de valeur, le juge va dire, ton devoir, là, c'est de représenter cette personne-là, de défendre ses droits, de s'assurer qu'elle est bien représentée avant ta paye.
Fait ce que vous dites, c'est que les médecins qui sont en clinique, par exemple, devraient prendre les bouchées doubles, c'est ça que vous dites?
Oui, absolument, puis de faire des ententes avec le gouvernement, à la limite, pour dire, bon, bien, la hanche artificielle, on va t'a donner au prix coûtant. Tu vas couper dans ta paye, puis ça coûtera pas 45 000 à quelqu'un pour se faire remplacer un ange comme ça a été pour un collègue. Je comprends pas, il est où le système, puis il y a un coup de barre qui doit être donné dans ma firme médicale au plus vite. Il faut déléguer aux infirmières, aux super-infirmières, puis aux pharmaciens, et puis laisser les médecins s'occuper des vrais problèmes. Mais on a c'est tellement une chasse gardée qu'aujourd'hui, en temps de crise, c'est plein de valeur, mais tous les médecins doivent être au poste, ils doivent aider. S'il faut que ça soit selon ton salaire ou ton revenu, ça sera ça. Mais
merci.
Moi, les cliniques privées, il y en a plein de disponibles en ce moment, là, qui ont de la disponibilité. J'aimerais ça les entendre, moi.
Merci, Gail. Merci bien. Johnny est avec nous. Bonjour, Johnny.
Bonjour, Mme Maréchal.
Oui, je comprends que vous êtes malade, c'est ça? Vous avez un cancer?
Ben, écoutez, moi, j'ai été opéré pour ablation au poumon droit, le lobe moyen, en septembre 2020. Le 23 décembre, après plusieurs jours de patience et de maux, j'ai dit, bon, j'ai pas le choix, après avoir appelé à 811, etc., pour me faire dire, écoutez, monsieur, vous devriez vous rendre à l'urgence.
Ouais.
Moi, je me suis rendu à l'urgence en ambulance. Après 7 heures d'attente, on m'a dit, vous savez, monsieur, vous allez faire 10 pas d'une direction, 10 pas d'une autre direction, c'est beau. Ben, monsieur, vous êtes capable de marcher, vous n'êtes pas un cas pour l'urgence. Écoutez,
quand
j'avais...
Quand vous êtes retourné chez vous, finalement, c'est ça?
Non, ça faisait 4-5 jours, ça durait, là, c'était... et puis, j'ai dit, ben, c'est pas normal, là, j'ai quand même 57 ans, c'est pas si vieux, on va dire, là. Et puis, le grand médecin d'une grande hôpital de l'Est, qu'on connaît tous, me dit après 7 heures, ben monsieur, vous savez, vous n'êtes pas vraiment un cas d'urgence.
Je comprends, oui. Donc vous êtes pas resté. Mais merci Johnny, je dois conclure sur ce sujet. Puis la doc Laberge est avec nous. Beaucoup de choses ont été dites par les auditeurs. Bon, on sent bien l'inquiétude, Christiane. Là Johnny, là, qui nous dit que lui il se sentait vraiment pas bien. Mais on lui a dit que vous êtes pas un cas urgent. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut évaluer puis il faut nous-mêmes être capable de dire est-ce que c'est urgent ou pas urgent.
Allez être précis dans vos demandes. Depuis le 14, j'ai de la misère à monter 8 marches d'escalier.
Ouais.
Le 18, j'en montais 2, puis j'étais essoufflée. Puis aujourd'hui, je marche sur le plat et je suis très essoufflée. Il y a une progression rapide, il y a une intensité qui augmente de mes symptômes et je demande à être vue. Ça, c'est des choses claires. Depuis une petite secousse, je ne vais pas bien, ça ne dit rien. Donc, plus vous allez être précis, plus vous allez apporter vos médicaments, plus vous allez voir, j'ai pris 2 Tylenol, ça n'a pas marché, j'ai pris 2 Advil, ça n'a pas marché, j'en ai pris 3, ça n'a pas marché. Oups, là, on a une gradation. Donc, plus vous allez être précis, plus vous allez être convaincant, plus vous allez être documenté sur vos symptômes, plus vous allez avoir un service qui va être personnalisé. Mais, tu sais, pas garder vos questions cruciales pour la poignée de porte juste en s'en allant. Ah, en passant, j'ai des douleurs à l'effort quand je monte l'escalier, tu sais. T'arrives avec ton plan, puis tu demandes, oui, j'ai ça, il faut que je fasse ça, il faut que je renouvelle ça, je fais ça. Plus vous allez être précis et organisé, plus vous risquez d'avoir un service qui soit plus personnalisé, et vous pouvez finir avec la question qui tue. Par contre, vous voulez pas me donner ma médication pour les infections urinaires, donc j'aurai droit à un service dans combien de temps quand je vais téléphoner puis que j'en fais un?
Ouais.
J'ai un problème X. Alors ça peut être aussi la question de contrat entre le médecin et son patient.
Oui, parce que là, tu parles beaucoup de la responsabilité du patient, puis
Des deux, là.
Ouais, c'est ça.
Je parle des deux, là. Ouais. Répondez-moi quand, puis comment, puis c'est quoi le truc?
Mais un mois plus tard, c'est-tu normal?
Que?
Mais que le médecin dise, OK, on va vous voir pour votre cas urgent, mais c'est dans 4 semaines. Ça marche pas, ça.
Si c'est un cas urgent, tu dis, écoutez, ben, il y a quelque chose qu'on se comprend pas, là. Il y a ça, puis c'est urgent.
Ouais.
Fait que, ben c'est ça. Mais il s'agit d'établir le contrat, puis idéalement, toujours aller à la même clinique pour le même
groupe
de médecins.
Merci beaucoup, Dr. Laberge. Merci bien. On s'en parlera, c'est sûr. On va aux nouvelles.